Vieilles Branches, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Et c'est ça, vous savez, la scène. C'est de donner l'illusion que c'est improvisé.
Pour ce dernier épisode de la saison de Vieilles Branches, j'avais rendez-vous dans un petit studio avec Maxime Le Forestier. J'avais hâte de le rencontrer pour mille raisons. La première, c'est qu'un de mes meilleurs souvenirs de mes 20 ans, c'est une chorégraphie de vacances effectuée par les passagers de deux voitures simultanément sur sa chanson « Mon frère ». Maxime Le Forestier, c'est aussi un immense fan de Brassens, qu'il a beaucoup repris, partant même en tournée interpréter ses titres. Et moi, j'ai grandi avec Brassens, c'est le chanteur préféré de mon père, je connais tout sur le bout des doigts, j'ai vu les expos, j'ai été sur sa tombe à 7, et je connais les mimiques de ses vidéos par cœur. J'en regarde quand ça va pas. Bref, je me disais que ça allait connecter, et finalement, ça n'a pas été aussi facile que prévu. Mais vous allez voir la douceur et l'élégance de ses réponses.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de cocaïne, ça ne me fait rien.
De toute de la vie,
je suis encore
désirable. Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieilles Branches. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui je partage un studio avec Maxime Le Forestier. Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour.
Merci de prendre ce temps pour nous. Maxime Le Forestier, vous avez bercé les enfances et l'adolescence de beaucoup. Certains chantonnent La Petite Fugue, C'est une maison bleue, Mon frère, né quelque part sans toujours savoir que c'est de vous, tellement c'est inscrit maintenant quelque part dans l'histoire de la chanson française. Votre carrière musicale, elle a commencé avec votre sœur Catherine. Elle a continué en solo quand elle est partie vivre sa vie. Elle a continué aussi avec Brassens sur la scène du théâtre Bobino. Brassens qui a accompagné toute votre vie d'artiste de vos 14 ans à aujourd'hui. Vous êtes le compagnon de Georges Moustaki, de Graham Allwright, de beaucoup d'autres. Vous êtes aussi écuyer. Vous avez appris l'art équestre avec un des plus grands maîtres du genre, Nuno Oliveira. C'était au Portugal. Vous êtes papa aussi de deux garçons devenus grands aujourd'hui. Je vous rencontre alors que vous retrouvez la scène la semaine prochaine, je crois, justement sur les terres de Brassens, là où il a grandi, là où il est enterré, même si c'est pas sur la plage, à 7 donc. Mais avant de se plonger dans les 10 000 rebondissements de votre vie, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu cette année et demie de Covid.
Oh, très privilégié, parce que d'abord j'étais confiné à la campagne. C'est une maison que j'ai achetée en 78, que j'ai voulu vendre 1000 fois. Et là, je me suis félicité de ne pas l'avoir vendue. Et puis, j'en ai profité pour écrire un livre, comme je ne pouvais pas chanter, et que j'avais cette idée-là sur le gaz. Je me suis dit, ben allons-y. Donc, je me suis pas ennuyé.
Il y avait vos fils, en plus, qui étaient là. Enfin, c'était presque une réunion familiale.
Il y avait mes deux fils. Il y avait Arthur, qui est musicien. Et Philippe, qui est régisseur général de cinéma, donc qui a une culture colossale. Donc, il nous organisait des soirées cinéma. On a fait un cycle Tarantino. On a fait... Non, c'était très bien.
C'était presque
très
même un moment privilégié, au final. Une petite pause, quoi. On va en revenir au tout début, à votre enfance. C'est quoi vos tout premiers souvenirs? Est-ce que finalement ils sont résumés dans cette fameuse fugue qu'on connaît tous? Ces souvenirs de gamme de piano qui s'élevait dans la maison, qui faisait chier les voisins?
Non, c'est pas résumé là. Ça se passait de temps en temps. Mais c'est vrai que ma sœur aînée, Anne, qui est décédée l'année dernière... qui a fait une carrière de musicienne classique. Elle a été prof au conservatoire de Boulogne pendant toute sa vie. Elle a formé des dizaines et des dizaines de musiciens. C'est elle qui donnait là à la maison, quoi, quelque part.
Littéralement.
Littéralement, oui. Elle avait l'oreille absolue, d'ailleurs.
Et vos premiers souvenirs, vous en avez des trucs un peu flous, des bruits, des odeurs?
Oui, l'odeur des troènes.
Des troènes?
Oui.
C'est quoi?
C'est des plantes avec lesquelles on fait des haies.
Ah ouais?
Ouais.
Et pourquoi?
Je sais pas. J'avais ma chambre dans le 17e et je respirais l'odeur des troènes et je trouvais ça bon.
Vous venez d'un milieu petit bourgeois, disait votre sœur, catholique, assez classique.
Oui, tout à fait, oui.
Elle vous avait été élevée dans la... Enfin, par exemple, vous avez été au lycée Fénelon-Sainte-Marie, je crois.
Tout à fait, oui. Oui,
assez strict, ça priait matin, midi et soir.
Oui, oui, oui. Jusqu'en troisième. Et puis après, mes parents ont divorcé, donc ça nous a séparés de l'église, heureusement. Et moi, je suis allé au lycée Condorcet, où là, j'ai fait la connaissance de la laïcité,
de la rébellion, c'était déjà là.
Oui, c'est arrivé en même temps, oui, à peu près.
En même temps que le divorce de vos parents, finalement.
Tout à fait, oui.
Ouais. C'est une grande souffrance qui est souvent occultée par ceux qui la vivent, parce que, bon, personne n'est mort, la vie continue, enfin voilà, il n'y a pas de grand drame, et puis parfois on se dit que, finalement, par rapport à d'autres, un divorce, c'est pas grand-chose, mais bon, vous en avez quand même pas mal parlé, de ce divorce de vos parents. C'est quand même une tragédie personnelle à 14 ans, parce que c'est l'enfance qui s'arrête, en fait.
Pas du tout.
Non.
Pour moi, c'était plutôt un soulagement, parce que mes parents s'engueulaient tout le temps. Ils s'engueulaient en anglais, d'ailleurs, pour pas qu'on comprenne. C'est pour de là, ça m'a pris quelques années de psychanalyse pour comprendre que c'était de là que c'était là qu'étaient nées mes difficultés avec l'anglais. Mais non, ça a été un soulagement quand ils se sont séparés.
Ouais. Vous étiez déjà très proche de votre sœur Catherine, en tout cas c'est ce qu'elle raconte. Elle dit qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être sans doute encore plus rapprochés pour former un noyau familial finalement à deux, quoi.
Sans doute, oui, sans doute. Mais on faisait de la musique ensemble. On chantait beaucoup. Je me souviens qu'on chantait à deux voix le concerto pour deux violons de Bach. Et c'était une prouesse. Je serais incapable de le faire maintenant. Mais on était, il y avait Anne qui était la grande et puis Catherine et moi qui étions les petits.
Et la guitare alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes dit, ah, tiens, parce que vous êtes allé acheter une guitare dans un magasin qui existe toujours.
Non, il n'existe plus.
Paul Boucher,
ouais,
c'est fini.
Il n'est plus au même endroit en tout cas.
Ah bon?
Oui.
Bon, pour moi, il est resté là toute la vie, mais peut-être qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller acheter cette guitare? Est-ce que vous aviez fait vous étiez musicien petit, vous en avez eu marre du violon, vous reveniez à la musique avec la guitare quelque part?
Tout à fait, oui. Je n'avais pas vraiment lâché la musique parce que je faisais du chant choral à Fénelon.
Quelle voix? Bariton?
Ah non, non, soprano.
Soprano. Ah oui, avant la mue.
Mais oui. Et j'adorais ça. J'adore toujours ça, d'ailleurs. Chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir une chorale avec moi, je prends. C'est magnifique, le chant choral.
Mais vous chantez plus soprano, par contre?
Non, là, je serais plutôt baryton, maintenant. Mais... oui, à 14 ans, j'ai eu... On n'écoutait jamais de chansons à la maison. C'était pas dans notre culture.
Il n'y avait pas de radio, non plus?
Il y avait une radio, oui, mais qu'on écoutait assez peu. Je me souviens d'avoir entendu Piaf, d'avoir... mais sans plus, quoi. Et donc, j'ai décidé de m'acheter une guitare et surtout d'apprendre tout seul, de ne pas avoir de prof. Parce que c'est... mes deux sœurs étaient au conservatoire, passaient des auditions, elles avaient des notes, c'était pas drôle.
C'était l'école.
Ouais, ouais, c'était l'école. Et moi, j'avais envie de liberté, donc je suis allé acheter une guitare, un tableau d'accords, pour savoir où mettre mes doigts. Puis j'ai demandé au marchand de partitions qui était à côté, qu'est-ce que vous avez comme littérature pour guitare et voix? Et il m'a vendu 4 chansons de Brassens.
Et dans la semaine,
la chanson, la guitare et Brassens.
C'était fait,
oui.
Et donc vous avez vu Brassens à l'écrit avant de l'entendre, en fait?
Oui. tout à fait. Je ne savais pas qu'il chantait.
Vous ne saviez pas qu'il chantait. Jamais entendu parler.
Non, non mais... il ne passait pas à la radio. Hein,
il plus. Était interdit.
Oui.
Le pornographe, le phonographe. Et donc, vous l'entendez. Mais du coup, ça, est-ce que vous croyez que ça a changé un petit peu votre rapport à Brassens, de l'avoir d'abord lu quelque part avant
oui.
de l'avoir entendu?
Je pense, oui. Je pense que ça a fait en sorte que je puisse chanter ces chansons sans limiter.
Mm.
Parce que c'est... Bon, c'est un grand débat, hein, le phrasé de Brassens. Qu'est-ce qui fait partie de l'écriture? Qu'est-ce qui fait partie de l'interprétation? C'est si vous faites la Camarde qui ne m'a jamais pardonné, ça c'est de l'interprétation. Sur la partition, il y a la Camarde qui ne m'a jamais pardonné.
Et donc vous avez lu ça, vous?
Donc moi j'ai lu
vous
ça.
Vous venez de le chanter.
Voilà.
Vous n'aviez pas entendu l'interprétation. Et ça vous a ouvert aussi d'autres portes, j'imagine, Brassens, enfin, en tout cas, dans le, justement, où vous disiez, bah, en fait, on entendait, parce qu'on on a du mal à l'imaginer, mais que les années 50-60 étaient aussi fermées, en fait, sclérosées pour les jeunes, enfin, qu'il n'y avait pas un gros mot qui sortait, il n'y avait rien, enfin, que c'était très, je ne sais pas comment dire, serré, quoi, comme
c'est le mot, France,
ouais, serré,
c'est le mot.
Pas marrant, quoi.
C'était la France de Gaulle.
Ouais, ouais pas drôle. Et ça a ouvert ça aussi, peut-être, j'imagine, Brassens.
Ben oui, ça a ouvert déjà un débat sur l'anticléricalisme, sur la religion, sur tout ça, parce que je me posais des questions. Ça a ouvert les gros mots. et puis la liberté de penser.
Et l'anticléricalisme, vous croyez que vous étiez croyant quand vous étiez petit, ou c'est juste que c'était tellement ancré dans le quotidien que c'était quelque chose qu'on questionnait pas?
Ouais. Oui, c'était ancré, c'était comme ça, quoi.
Et du coup, quand ça s'est arrêté.
Voilà.
Et le fait d'être viré du lycée, ça c'était plutôt chouette, ou c'était quand même un truc difficile à faire passer?
Un grand moment de solitude quand je suis sorti par la rue Caumartin du lycée Condorcet. Et puis, la difficulté, ça a été de l'annoncer à ma mère, mais elle a réagi très bien. Elle a dit, ben écoute, tant que t'apprendras quelque chose, t'auras à manger et à dormir ici. Donc voilà.
Vous n'aviez pas promis de suivre des cours par correspondance ou des trucs comme ça?
J'avais rien promis. Mmh. C'était des choses qui étaient dans l'air, mais à la rentrée suivante, je m'inscrivais chez Florent.
Au cours Florent.
Ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'il existait. Donc c'était encore François Florent qui enseignait. Il y avait Weber, il y avait Huster, il y avait... je me suis fait un groupe comme ça de...
Mais à 15 ans, du coup. 16 ans.
16 ans, ouais.
Et quand vous dites aussi, quand un enfant a une passion, au final, il n'y a pas grand-chose qui peut se mettre au travers.
Ouais.
Ouais. Parce que c'est une chance, en fait, dans la vie. Quand on voit, j'imagine aussi qu'en tant que parent, quand on voit son enfant avoir une passion, c'est presque hyper rassurant de se dire que même si c'est pas toujours facile, il y a un truc sur lequel il peut s'appuyer, une route à suivre.
Oui, puis ma mère avait une sorte de confiance en ses enfants, dont j'ai hérité, d'ailleurs.
Avec vos propres enfants?
Avec mes propres enfants,
avec
oui.
vous-même.
Non, avec mes propres enfants, j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils trouveront des choses qui leur permettront d'être heureux.
C'est un socle qui m'a l'air assez fondamental. Vous viviez quand même des choses folles à 15 ans. Vous avez fait l'Allemagne en mobylette. Ça me paraît complètement dingo de laisser partir son enfant pour faire l'Allemagne en mobylette.
Oui, oui, mais il n'y avait pas de portable non plus. Hein, donc, je n'ai pas téléphoné pendant 3 semaines.
Vous êtes allé de où à où?
Alors, je suis allé... l'idée, c'est de remonter la vallée du Rhin. Je suis allé en train avec ma mobylette jusqu'à Cologne, Köln am Rhein, et j'ai remonté jusqu'à Francfort. En Francfort, j'ai rencontré une fille. On est parti en stop jusqu'à Hambourg.
Et la mobylette?
Je l'ai laissée à Francfort.
Très bien.
Mais
c'était mieux de suivre la fille.
Oui, oui, bien sûr. Mmh. Et puis, je suis revenu de Hambourg, j'ai récupéré ma mobylette à Francfort, et là, comme j'étais un peu raide financièrement, je suis rentré en mobylette de Francfort à Paris.
Pas mal. Mmh. Et la fille?
Je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
Vous avez été très amoureux pendant 2 jours?
Ah oui. Ouais. Mais à 15 ans.
Vous êtes allé aussi assez jeune, j'imagine, en cabaret avec votre sœur, le cabaret Louisette. C'était pas très loin de chez vous, à Saint-Ouen?
À Saint-Ouen, oui. Oui. J'étais encore au lycée hein, quand on allait chez Louisette. C'était une espèce de bistrot qui sentait la frite. Et Louisette...
Elle existait, Louisette, c'était une vraie personne.
Oui, c'était une vraie personne qui parlait comme ça. Qui était vraiment une barigote parfaite. Et puis, il y avait des manouches qui jouaient de la guitare dans un coin. Et comme je commençais déjà à chanter du Brassens, je devais avoir 15 ans. Quoi. Pendant la pause des manouches, je chantais. Et je partageais la manche avec eux.
C'est la forme que prenait le cabaret. Est-ce que c'en était vraiment au final?
Ah non, ça c'était un bistrot. Non, oui. Le cabaret c'est arrivé plus tard. C'est arrivé quand on faisait notre duo avec Catherine, les petits cabarets de la rive gauche. Là c'était une autre clientèle. C'était beaucoup moins populaire et beaucoup plus intello.
Vous aviez déjà changé de prénom?
C'est arrivé en même temps, oui.
Pourquoi?
Mais dans le journal du lycée, je signais Maximilien. Et
j'ai même oublié, vous appelez Bruno, c'est ça?
Oui. Et c'est devenu Max, et puis c'est resté comme ça.
Et donc c'était Kat et Max, le duo.
Kat et Maxime, oui.
Kat et Maxime. Et vous savez pas pourquoi, mais... En fait, ça m'a fait rire, je me suis dit, c'est drôle de passer de Bruno Le Forestier à Maxime Le Forestier.
Oui, alors c'est une tradition familiale de changer de prénom. C'est... Mon grand-père, non pas mon grand-père, mon arrière-grand-père a eu deux prénoms. Ma mère s'appelait Geneviève et sur sa tombe il y a marqué Lily. Anne, c'était très vite surnommé Moon. Catherine est devenue Aziza. C'est une habitude familiale.
Vous n'avez pas étudié ça dans votre psychanalyse?
Non.
J'aurais été intéressée par la réponse. Vous êtes parti faire votre service militaire chez les parachutistes, qui était un truc assez prestigieux, en fait, dont certaines personnes rêvaient. Mmh. Et vous, vous êtes atterri là un peu par hasard, quoi. Ils ont...
C'était un malentendu, en fait. Moi, je l'ai mal pris. Hein. Quand je suis arrivé à la gare de Benestroff et que j'ai vu que c'était des bérets rouges qui nous attendaient, je me suis dit, ça, c'est la récompense de mai 68. Quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour me faire virer au bout de 2 mois, parce que je voulais pas sauter. Hein. C'est pas que j'avais peur de sauter, c'est que sauter, ça coûtait de l'argent, qu'à partir du moment où un mec avait sauté, il fallait le garder.
Mmh.
Puis moi j'étais pas du tout dans cet esprit là quoi. Je fumais déjà 2 paquets de clopes par jour.
Pas de pétards encore ou déjà?
Non, pas de pétards. Les pétards sont arrivés beaucoup plus tard, beaucoup beaucoup plus tard. Mais quelques années plus tard, enfin bien des années plus tard, c'était en fin des années 90. J'avais fait une longue tournée en Afrique avec les chansons de Brassens. Et à Djibouti, je rencontre un capitaine de parachutiste et on parle. Et il me dit, vous savez, c'est pas à vous que j'en veux.
Oui, parce qu'il faut dire que vous avez écrit une chanson antimilitariste qui s'appelle, si les gens ne le savent pas,
oui,
Parachutiste,
ça, oui.
Suite à cette expérience.
Bien sûr, oui, qui a été chantée par John Baez, qui a fait un peu de bruit. Moi, je vous en veux pas du tout. J'en veux à l'officier orienteur qui vous a mis dans ce régiment. Parce que nous, qui étions des professionnels, des gens qui voulaient être militaires, on rêvait de passer par le 13e dragon parachutiste. C'était l'école ultime. Et de savoir qu'il y avait des gens qui n'avaient pas envie d'y aller et qu'on les mettait de force, ça nous a rendus furieux. Et là, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, finalement, l'officier orienteur qui m'a mis là, il a vu que j'avais pas le bac, que j'habitais Saint-Ouen, que mes parents étaient divorcés, que j'avais pas de métier, parce que chanteur, c'est pas un métier, et il a dû se dire, je vais lui donner une chance.
Ça, l'armée, ça va lui faire du bien,
voilà,
ça va le remettre droit, quoi.
Voilà.
Ça vous a pas remis droit. Mais si vous étiez resté plus longtemps, qui sait?
Oh, je pense pas, non. Non, je pense pas.
À l'époque, vous aviez déjà rencontré, vous aviez déjà toute une bande de potes, en fait, ouais. Musiciens, etc. Vous aviez déjà rencontré, par exemple, Georges Moustaki, qui, oui. était, qui avait quoi, 10 ans de plus que vous, un truc comme oui. ça. Ouais. Et bah, lui, il vous écrivait, par exemple, quand vous étiez à l'armée. Enfin, il y avait presque une bande qui s'était organisée pour vous remonter le moral pendant
tout
que vous
étiez. Tout à fait, oui. Joël Favreau, le guitariste de Brassens, qui est... j'ai encore sa lettre, elle est magnifique. Si tu veux pas te laisser avoir par ce système-là, commence par modifier le langage. Et il m'avait fait tout un dictionnaire, un casque, c'était un chapeau de métal,
un fusil,
un bâton à mitraille, la corvée de chiottes, c'était l'amélioration de l'état des latrines. Enfin, et je me mettais à parler comme ça, et finalement, ça m'a peut-être aidé à me faire virer.
Ne pas utiliser les bons mots.
Voilà.
Parce que les mots ont leur importance. Moustaki, vous écrivez des chansons ou j'ai mal compris? Vous avez interprété des chansons de Moustaki?
Non, quand on a rencontré Moustaki, j'avais 16 ans et ma sœur était très jolie. Et ça a beaucoup fait pour l'intérêt que Moustaki nous apportait.
D'ailleurs, chérie, parce qu'elle disait, dans une interview, elle dit que vous dites que c'était une sorte de grand frère. Et ouais. Elle dit que elle, si ça avait été un grand frère, ça aurait été une relation incestueuse.
Oui, tout à fait. Mais il était célèbre pour avoir écrit Milord. Il avait fait un tube énorme, ce qui lui permettait de très bien vivre. Mais il n'avait pas encore sorti le Métèque, toutes ces choses-là. Donc il avait une vingtaine de chansons magnifiques dans ses tiroirs qui étaient chantées par personne. Et donc, il m'a dit après que ça lui avait fait du bien, qu'il se prenait pour un vieux cheval de retour et que de voir des jeunes s'intéresser à ce qu'il faisait, que ça lui avait fait du bien. Donc c'est aussi pour ça. Enfin, ça a été un échange de bons procédés.
Et derrière, il y a Serge Reggiani qui a repris les mêmes titres, et là, lui, ça a été...
Ah là, on est devenu ringard dans la semaine.
Et lui, 30 ans, il se trouvait vieux à l'époque? C'était vieux?
Ah oui.
Vous le voyez comme un mec vieux et impressionnant?
Il avait 31, 32. 15 ans d'écart, je crois.
Ouais. Oui, donc à 16 ans, 30 ans, c'est un autre monde.
C'est un autre monde, oui.
Quand Maxime Le Forestier est enfin sorti sans avoir sauté de son service militaire, il a écrit le titre Parachutiste, qui est devenu un hymne antimilitariste, qui lui a d'ailleurs valu des menaces physiques de groupuscules d'extrême droite, qui sont même allés jusqu'à l'agresser en direct sur Europe 1. Mais le plus fou de cette chanson, c'est que la première à avoir soulevé les foules avec, c'est Joan Baez. C'était déjà une star à l'époque, et puis elle était en tournée en France, elle avait agacé sa maison de disques avec des prises de position politiques qu'ils étaient trop frileux pour assumer. À la sortie d'un avion, pour la punir, il ne lui avait pas envoyé de taxi. Le hasard des choses a fait qu'un ami d'amis d'amis a demandé à Maxime Le Forestier d'aller chercher la chanteuse à l'aéroport dans sa petite voiture. De fil en aiguille, ils sont allés manger une cuisse de poulet chez la mère de Maxime, et puis lui, il lui a montré ses chansons. Elle a aimé Le Parachutiste et elle l'a entonné pendant un concert. Ça a déclenché une foule en délire. Encore une histoire très années 70 qu'on peut se raconter pour s'endormir.
Vous êtes parti à San Francisco aussi avec votre sœur?
Oui.
Et un mec qui avait l'air incroyable, Luc Alexandre.
Ah non, on n'est pas parti avec lui, c'est lui qui nous a donné l'adresse.
Ah, il vous a dit, allez à la Maison Bleue.
C'est ça, on était à Spa, au festival de Spa, où Catherine a gagné le concours. Et dans un bistrot, un soir, on rencontre Luc, qui était belge, qui habitait San Francisco et qui venait en Belgique pour renouveler son visa. Et on nous a dit, mais c'est pas à Spa que vous devez être, c'est à San Francisco, voilà une adresse. Et avec l'argent du prix, on a pris des billets d'avion et on est arrivé quelques jours avant lui. C'était marrant.
Donc il était bien là.
Ah oui, après, tout à fait. Oui,
vous êtes parlé avec lui, mais il était là.
Après. Non, il était là, oui.
Et qu'est-ce qu'il avait de... Parce que j'ai vu Jacques Weber qui en parlait aussi. Qu'est-ce qu'il avait de si charismatique, ce Luc Alexandre?
Un regard. Un regard profond. Sa devise, c'était « faut tout essayer ».
Il a tout essayé.
Et il en est mort.
Ouais. Il est mort du sida. Il a dit avant que le sida, il faut l'avoir maintenant, parce que dans 2 ans, tout le monde l'aura.
C'est vrai, oui.
Avant-gardiste. Oui. Jusqu'au bout. Et ce qu'il dit, c'est qu'il vous a donné, par exemple, le jour de sa mort, que vous êtes sorti de l'hôpital avec une formidable envie de vivre. Quoi.
Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais les dernières semaines de sa vie, on allait le voir à Bichat avec Jacques. On avait fait un pont aérien de caviar parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient avaler.
Un pont aérien? Oui, c'était organisé militairement.
Oui, 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 c'était vraiment bien. Et puis Jacques sentait très mal que Luc meure à l'hôpital comme ça. Donc on a pris rendez-vous avec la chef de service, une femme formidable. Et Jacques prend son ton de directeur de théâtre.
Jacques Weber
prend son ton de directeur de théâtre et il dit voilà, vous pouvez avoir une ambulance qui vient le prendre puis qui le ramène après la pièce, etc. Et la toubib, elle a dit écoutez, j'ai encore un petit problème dans le cerveau, laissez-le moi 2 jours et après je vous le confie. Et Jacques avait joué le misanthrope avec Emmanuel Béart à l'époque. Et il y avait un tout petit rôle pour Luc. Ça a été ses derniers jours, ça a été magnifique.
San Francisco, c'était quoi? Enfin, c'était quoi, cette maison bleue pour vous? C'était tout d'un coup une ouverture, un truc fou?
Bah, c'était une des nombreuses communautés qui vivaient dans le quartier de Castro à San Francisco, qui était composé de marginaux, soit d'homosexuels, soit de déserteurs de la guerre du Vietnam, soit les deux. Et tout ce quartier vivait en totale liberté, quoi. C'était magnifique. Non, arriver à San Francisco, c'était complètement autre chose. D'abord, de voir des gens de nos âges qui s'organisaient, qui s'assumaient. Parce que ils étaient tous plus ou moins partis de leur famille dans le Middle West ou ailleurs. Vous savez, c'est ces petites villes où il y a une église tous les 100 mètres. Et soit parce qu'ils étaient homos, soit parce qu'ils étaient déserteurs, soit parce que ça leur plaisait pas, ils étaient partis vers l'Ouest. Et au lieu de vivre dehors, en bons ricains qu'ils étaient, ils s'étaient organisés, ils avaient loué des maisons pas chères dans le quartier mexicain, dans le Castro, et ils s'étaient organisés.
C'est l'organisation qui vous a plu? C'est l'ordre dans le désordre?
Oui, tout à fait, oui. Mmh. Ah oui, oui, c'est une chose qui m'a frappé, ça, oui. C'est vraiment une chose qui m'a frappé, combien ils étaient capables d'être organisés dans le bordel. C'est pas incompatible.
Votre sœur, elle était avec vous, elle en a un souvenir moins... Enfin, peut-être aussi qu'elle était un petit peu plus âgée que vous, mais en tout cas, elle a trouvé ça moins fou. Et est-ce que c'est à ce moment-là, plus ou moins, qu'elle arrête la chanson,
Tout à fait. Quand on est rentré à Paris, moi, j'ai repris mon métier de chanteur, et elle est partie vers le sud avec une Gibson qu'on avait trouvée à New York et un sac avec son linge. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant des mois et des mois.
Le temps d'ailleurs, vous, de faire une petite ascension assez fulgurante, non? C'est pas à ce moment-là, finalement?
Ça a été l'année, oui, l'année 71 et début 72, c'est là que ça a commencé à sourire.
Mais à l'époque, c'était pas si bizarre de ne pas avoir de nouvelles d'un proche pendant 6 mois, 9 mois, puis de le voir réapparaître, ou votre mère était quand même inquiète?
Non.
Non.
Non, non. Enfin, j'ai pas senti ça. Elle l'était peut-être, mais elle le montrait pas.
Je me demandais parce qu'elle vous avait appelé pour vous dire bon, c'est bon, j'ai eu des nouvelles. Elle était au Maroc, ou d'ailleurs, peut-être
elle
pas
était
encore.
Elle était au Maroc, oui. Elle remontait en été 72. Ouais. Moi, je faisais mon premier stage chez Nuno Oliveira.
Nuno Oliveira, c'est l'homme dont on a parlé très vite en introduction.
C'est ça, c'est le plus grand écuyer du XXe siècle, sans doute. Et c'était mon premier stage, et quand même je téléphonais à ma mère de temps en temps, elle me disait, j'ai des nouvelles de ta sœur, elle remonte en Europe avec un mec et un âne. Alors je vais voir Oliveira, c'était quand même... un grand personnage, quoi. Donc je suis maître. Voilà, j'ai pas de nouvelles de ma sœur depuis un an. Et elle remonte du Maroc avec un mec et un âne. Alors il dit, je m'occupe de l'âne. Occupez-vous de votre sœur. Et il a fait virer un de ses étalons de son box pour mettre l'âne, qui n'est jamais arrivé parce qu'il se l'était fait voler au sud de Lisbonne.
Il s'était fait voler leur âne.
Oui.
Ça vous a flippé d'avoir arrivé votre sœur un peu
oui, parce que...
au milieu de
ah, oui,
tout
oui,
ça.
Ah oui, bah, ouais. Oui, Rivera, c'était l'écuyer du roi d'Espagne. C'était... bon, il y avait toutes les classes sociales, mais enfin, c'était plutôt assez snob. Quoi.
Donc, elle n'était pas tenable.
Oliveira s'est adapté. C'est marrant parce que un soir, il y avait son, on était dans la tribune du manège, il y avait son fils qui donnait une leçon à deux gamins. Il y avait que des étalons hein, dans ce manège. Et à un moment, les deux étalons se mettent à se battre avec les gamins dessus et le fils d'Oliveira entre eux. Et Oliveira se tourne vers le mec de ma sœur, vers Aram, qui était flûtiste. Il lui dit, est-ce que vous voulez jouer de la flûte pour mes chevaux? Sur ce ton-là. Alors qu'il y avait deux fauves qui se battaient. Et Aram a joué de la flûte et les chevaux se sont calmés. C'est quand même des moments importants.
Et voir votre sœur finalement abandonner la carrière que vous aviez commencé à deux, même si vous étiez tous les deux solos aussi, c'était douloureux ou c'était son chemin et puis voilà, et puis vous aviez été un bout de chemin ensemble?
Non, c'était son chemin et puis on avait... là où on s'est vraiment... on a commencé à se séparer, c'est quand Reggiani a chanté Moustaki. Parce que là, il a fallu qu'on se mette à écrire. Et autant Moustaki avait des chansons qui allaient très bien avec le duo... Autant chacun d'entre nous, on écrivait chacun pour soi. Donc, on ne pouvait plus chanter à deux.
J'ai l'impression que le succès est venu tranquillement et puis que tout d'un coup, ça a été assez fulgurant. Mais que vous ne l'avez pas vraiment senti, en fait, pendant que ça arrivait.
Ouais.
On ne se rend pas bien compte, en fait.
Non.
Enfin, un disque qui ne se vend pas trop. Enfin, non, d'ailleurs, votre premier album, c'est celui qui a cartonné, mais vous aviez fait des...
J'avais fait des singles. Mais San Francisco, en single, c'est vendu à 1500 exemplaires.
Ouais, c'est ça.
C'est un collector. Mais l'album a démarré une semaine après après sa sortie. Ça a décollé.
Je crois que le directeur de la maison de disques avait dit oh, ça marchera jamais et que c'était une excellente nouvelle parce qu'il se trompait systématiquement.
Ah, c'était plus poétique ce qu'il a dit. Il a dit c'est une belle pochette vide. Mmh. Et en sortant de la réunion, tous les collaborateurs, ouais, c'est génial, ça va marcher.
Mais c'est une boussole à l'envers en fait, le mec.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
C'est drôle qu'il était directeur de la maison de disques quand même. Et vous faites la première partie de Brassens à Bobino avec à peu près à ce moment-là.
En octobre 72. Oui.
Et ça, c'est. Enfin, j'ose imaginer que c'est fou quand on l'admire depuis déjà une quinzaine. Non, 10 ans. Que vous aviez 23, 24
ouais,
ans.
Ouais. 9 ans, ouais. C'est fou, ouais, en effet.
Vous le regardez un peu de biais, vous arrivez
à
lui parler
et tout. Non, pendant les premiers jours, je ne adressais pas la parole parce que c'était une immense vedette qui faisait sa rentrée, qui avait le trac. Parce que les chansons, il les enregistrait après avoir chanté 2 mois à Bobino pour être bien sûr que chaque mot était à sa place, etc.
Il testait en fait, comme
oui,
un humoriste.
Il testait, ouais. Tout à fait. Donc, quand c'était le soir de la première, les gens découvraient les chansons, vraiment.
Ouais, donc, j'imagine qu'il était très silencieux, même comme public, parce qu'il fallait prêter une oreille assez
délicate. Ouais. C'était quasi religieux, oui. C'était, même si une personne se permettait de chantonner, chut, c'était tout de suite. Non, c'était la messe.
Il y avait quoi comme chanson dans ce tour-là de
chant? Il y avait Les Passantes, il y avait Mourir pour des idées, il y avait... Oui, ouais. Ouais, il y avait du lourd. Mais ce qui est, avec le recul, je me dis qu'il avait 51 ans, il avait écrit ces chansons-là et il n'avait pas confiance.
Mm.
Il ne savait pas ce que ça allait donner.
Il avait un trac, mais vraiment monstrueux.
Ah oui. Mais je peux le comprendre.
Et je me dis que ça doit être tellement fou de rencontrer comme ça quelqu'un qu'on a admiré autant. Vous avez réussi finalement à avoir des conversations avec lui
Oui, au bout de quelques jours, ça s'est détendu. Et puis puis après, ça s'est encore plus détendu, quoi. Il m'invitait à déjeuner chez lui. Et il m'invitait dans des émissions de télé aussi, quand ils avaient besoin d'un jeune.
C'était bien, la jeunesse Maxime Forestier, ça sera bien.
C'est ça. Puis ça marchait bien pour moi, donc c'était super. Ouais.
Et alors, j'ai été peut-être pas déçue, mais moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Brassens en live, et il y a un truc que j'aime plus que tout, c'est ce micro-sourire, juste avant de dire soit une cochonnerie, soit machin, où il rentre dans sa moustache, tout d'un coup, sa bouche disparaît sous sa moustache. Mmh. C'est un truc que je peux le regarder en boucle et tout, mais il paraît que vous dites que c'était presque mécanique, en fait, que c'était tous les jours la même chose au même moment.
Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais c'est ça, vous savez, la scène. C'est de donner l'illusion que c'est improvisé.
Et vous avez appris des choses de la scène de Brassens ou
Mais c'est marrant parce que j'ai quitté le manège d'Olivera vers la fin du mois d'août et j'ai démarré à Bobineau au mois d'octobre. Et les deux avaient un point commun, c'était le minimalisme.
Olivera et Brassens, vous voulez
dire. Ouais. Olivera faisait faire des prouesses à ses chevaux et on ne voyait rien bouger. Brassens faisait...
Une guitare, un homme,
une moustache, un petit sourire de temps en temps et la salle était complètement acquise. Donc c'est ça que j'ai compris.
Le minimalisme, la simplicité. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on en ressent, hein, même à l'écoute de votre dernier album qui est sorti en 2019, il y a une épure.
C'est ça.
Alors, si vous avez jamais vu le sourire de Brassens rentrer dans sa moustache, regardez n'importe quelle interprétation des trompettes de la renommée, vous n'allez pas être déçus. Dans les chanteurs que Maxime Le Forestier a aussi bien connus, il y a Grim Allwright, que j'ai beaucoup aussi écouté enfant. Il reprenait en français des titres comme Little Boxes, par exemple. Et Maxime Le Forestier en parle comme d'un voyageur aux pieds nus. Un mec qui avait peur d'aller nulle part et qui, quand ils étaient à la campagne ensemble, partait se balader à 5h du matin, pieds nus donc, sur les chemins. Plus hippie que lui au final, qui était une figure de proue du mouvement hippie.
Il le dit très tendrement de vous, Georges Moustaki, dit que quand vous avez connu le succès... Et que ça a duré, quoi. C'était pas un succès qui a duré 6 mois, ça a duré c'était tube après tube. Vous êtes devenu un peu chiant.
Ouais.
Ouais.
Ah oui, bien sûr. Ah oui.
Chiant comment ?
Ben, c'est-à-dire quand pendant des années, on vous dit non.
Et que tout d'un coup, tout
et qu'à un moment, tout le monde vous dit oui, et que vous avez 23 ans, c'est normal que ça. C'est normal que ça monte à la tête un peu. Et puis. Les gens m'obéissaient quand même. Parce que quand j'ai dit qu'il fallait que les prix de place n'excèdent pas 10 francs, c'était absurde, c'était complètement idiot.
D'ailleurs, vous êtes rendu compte plus tard. Ouais.
3 ans plus tard. mais tous les producteurs étaient d'accord.
Tout le monde vous disait oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez un peu chiant ? On s'en rend compte, c'est les autres qui le disent ?
Non, les autres le disent pas, parce que quand ils vous aiment vraiment, ils s'en vont.
Et ils reviennent, du coup, après.
Et après, quand ils reviennent, ils vous disent « Mais t'étais un peu chiant, quand même. » Ah ben oui.
Et sur le côté engagement, et tout, parce qu'on l'a pas dit, mais pendant 68, vous étiez dans les usines, avec Georges Moustaki, d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes engagé dans les prisons, vous avez beaucoup chanté dans les prisons, vous avez été parmi les premiers, d'ailleurs, à le faire.
Le premier, oui. Ouais.
Mais j'ai l'impression que même si vous êtes engagé dans pas mal de choses, et puis vous avez fait le Resto du Cœur pendant des années, etc., en revanche, l'engagement militant, on va dire, vous êtes un peu allergique.
Oui, je suis très allergique, oui.
Ouais.
Oui. Mais j'aime bien m'engager pour des idées, j'aime pas m'engager pour des hommes ou des femmes.
Pardon.
C'est pour des êtres humains, disons. C'est Staline qui parlait du con utile.
Pour vous, c'est le militant ?
Non, quand on est un artiste et qu'on prête son image à un responsable ou une responsable politique, on est un con utile. C'est évident. Je demande pardon à tous mes collègues, mais...
Et donc mourir pour des idées, mais de mort lente.
Oui.
Ouais, ça continue ça continue à vous parler.
Oui, ben maintenant, j'ai l'âge de mourir, donc c'est pas grave.
Et après, vous avez vécu, par, ce que vous en a appelé, ce que on vous a nommé plus tard, une traversée du désert, mais en fait, j'ai l'impression que ça coïncide avec, avec la naissance de votre fils et avec la conscience que vous prenez assez rapidement, finalement, de son handicap, aujourd'hui léger, mais qui, à l'époque, vous pouviez pas savoir. Vous l'avez vachement accompagné, en fait, à cette époque-là. Vous pouviez pas tout faire.
Oui, c'est un peu ça, oui. Mais il y a aussi... je me suis aperçu que j'écrivais des chansons incompréhensibles. Mmh. Et c'est redevenu compréhensible avec Né quelque part quand Philippe était capable de comprendre.
Oui, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça dingue. En fait, votre fils, il était malentendant. À l'époque, on vous a peut-être dit sourd, même.
Pas sourd, non. Il entendait mal, mais c'est une surdité sévère, quand même. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas parler. Mais il avait heureusement une envie de communiquer tellement forte que...
Et donc, pendant des années, vous écrivez des trucs assez obscurs, assez, assez incompréhensibles.
Oui.
Et quand votre fils est en âge, enfin pas en âge d'ailleurs, capable d'entendre, de comprendre, là, vous vous rendez compte que vos textes deviennent beaucoup plus clairs.
Ouais, c'est pas réfléchi, hein, je m'en suis aperçu plus tard.
Toujours pendant la psychanalyse, ça avait eu lieu avant.
Ouais.
Peut-être que vous aviez des choses un peu plus importantes à faire à ce moment-là. C'est quoi les choses que vous croyez avoir transmises à vos deux fils?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que les enfants, ils ont cette faculté de nous voir quand on est de dos. Et ce qu'on croit leur avoir transmis, c'est pas souvent le plus important. Ce qu'on leur transmet, c'est ce qu'on leur transmet sans le savoir.
Peut-être sans le dire aussi.
Non, sans le savoir. Sans le savoir.
Le bon et le mauvais, du coup.
Le bon et le mauvais, bien sûr.
Et il y a des choses que vous voyez, quand même, quand on se rend compte, après, parce qu'ils sont grands, là, vos fils.
Ah oh, bah oui.
Ils sont quoi, 35
31 et 40. Je suis très fier de ce qu'ils sont. Ouais. Philippe est devenu régisseur général de cinéma, donc il est chargé de la logistique, du délire des réalisateurs, quoi. C'est extraordinaire, des miracles qui fait comme ça. Et Arthur, bah, il joue de la guitare mieux que moi, parce qu'il a eu un bon prof, lui.
Autodidacte, finalement.
Il n'était pas autodidacte du tout, il a travaillé avec Manu Galvin, et Manu lui a vraiment communiqué la musique.
Vous dites que la vieillesse, on vous a dit que c'était se réveiller après 60 ans, tous les jours, en ayant mal quelque part. Enfin, si on a mal nulle part, c'est qu'on est mort.
Oui.
Mais en revanche, personne ne vous a parlé du bonheur que c'était d'avoir deux fils grands qui marchent à côté de soi dans la rue.
C'est vrai que c'est un bonheur, ouais. C'est vrai.
De voir des adultes, enfin, des gens en fait, c'est des gens.
C'est des hommes, ouais.
Ouais.
Et c'est des hommes que je suis, que je serais heureux d'avoir comme amis. Donc ça va, c'est plutôt réussi.
Et vous continuez à voyager comme vous voyagez avant?
Non, je suis de plus en plus casanier. Ça se brassénise. Brassens, il n'a jamais aimé voyager.
Non.
Moi, j'ai eu toute une période où j'étais heureux dans un aéroport. Maintenant, non.
Parce que c'est trop facile, peut-être, presque. Parce que partout où on voit les mêmes choses, ou en tout cas, c'est difficile de sortir du facile.
Je ne sais pas, mais...
Ou parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs intéressants près de chez soi aussi.
Je crois que c'est plutôt ça.
Ouais.
C'est en plutôt ça. Oui.
On creuse à la verticale au lieu de creuser à l'horizontale.
Ouais.
Je ne sais plus qui dit ça. C'est un monsieur qui fait des BD. Et à part ça, la vieillesse, ça va? C'est comment? C'est bien? C'est chiant?
Il y a d'excellents côtés. Il y a des côtés moins excellents.
Les excellents, pour commencer?
Les excellents, c'est ce que vous disiez. C'est le plaisir d'avoir des enfants.
Personne.
Le chiant, c'est vrai que on se réveille rarement en ayant mal nulle part.
C'est vrai, vraiment.
Oui. Mais bon.
Mais d'ailleurs, est-ce que votre rapport à votre corps, est-ce que Jacques Weber... Parce que j'ai trouvé que... Donc dans, vous avez peut-être compris que je me suis beaucoup appuyée sur votre biographie pour préparer cette interview, que vous avez remaniée il y a quelques années, mais que, qui a été écrite assez longtemps. Et dedans, il y a le témoignage d'un de vos très proches amis, du coup, Jacques Weber. Et il est dur avec vous. Enfin, je trouve qu'il dit des choses assez... Enfin, hyper franche, honnête, qu'on ne dit pas souvent, même entre amis, etc. Donc je me suis dit que vous deviez être quelqu'un d'assez cool pour pouvoir laisser
non,
dire.
Ça c'est une relation qu'on a, Jacques Weber et moi. Chacun invite l'autre le plus tôt possible dans l'exécution d'un spectacle. Et le visiteur a le droit de dire à l'acteur trois choses désagréables. À condition que ça puisse se corriger dans la nuit.
C'est une règle que vous avez dictée.
Ouais, ouais, ouais. Je lui ai dit des trucs épouvantables.
D'accord, donc c'est tout, c'est permis.
C'est permis et c'est même un devoir et c'est. Jacques dit que c'est avoir l'amitié exigeante et j'aime bien ça, moi.
Ouais, c'est beau parce que c'est vrai que pareil, il dit des choses très belles sur vous, que par exemple. Vous avez quelque chose d'une séduction absolument pure, quoi, que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, que c'est comme ça. Et puis, par exemple, c'est pour ça que je vous pose la question du corps, il dit que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah oui. Aussi, il dit que je suis raide à cheval. Enfin, lui, il a toujours monté comme un comédien. Quoi. C'est une horreur. Il a des jambes trop longues. Enfin, c'est... Non, 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 c'est pas possible.
Mais du coup, je me demandais si cette dissociation qu'on peut avoir parfois avec son corps, enfin ce truc où on ne se sent pas parfaitement dedans, quoi, avec la vieillesse, ça se résout, ou plutôt ça reste une relation pas très amicale.
Je sais pas, moi je me suis toujours senti plutôt bien dans mon corps.
Ah, hein, c'est lui qui...
Mais lui, il a l'œil du metteur en scène. C'est-à-dire, s'il sent bien que...
Mini-dissonance,
mais nous avons une prof de chant commune qui s'appelle Raymonde Viret, qui a 96 ans, et qui peut vous dire, en entendant votre voix et en voyant à quel moment de la gamme vous avez des faiblesses, si vous avez eu des problèmes psychiques ou des trucs très intimes, quelquefois. Hein. Donc Jacques, il a cet œil-là du prof de théâtre qu'il est.
Qui entend dans la moindre nuance.
Qui voit.
J'ai deux dernières questions avant qu'on se quitte, parce que ça y est, c'est déjà fini. Est-ce que c'était mieux avant, Maxime Forestier ?
Non.
Même là, après un an et demi de pandémie ?
Ah, bon, non, non, c'était pas mieux avant. Non, ouais. C'est pas possible. Non, attendez. La médecine a fait des progrès considérables. Non, c'est pas bien de penser ça. C'est pas bien. C'est Zemmour, quoi.
Ouais. Vous êtes pas réac, quoi.
J'aime pas cette idée que c'était mieux avant, parce que... Mais avant quoi, d'abord ?
Puis ça dépend pour qui, aussi.
Et ça dépend pour qui, et j'aime bien cette phrase d'Éluard, j'avais 20 ans, et je ne permettrai à personne de dire que c'est le plus bel âge de la vie.
En tout cas, c'est très rassurant quand on a 20 ans et qu'on est malheureux, cette phrase d'Éluard.
Tout à fait.
On se dit qu'il y a des chances que ça arrive plus tard.
Oui, oui, oui.
Vous, si vous disiez là, le plus bel âge de la vie, ce serait quoi ?
Maintenant ?
C'est vrai ?
Ah oui.
Est-ce que vous êtes libre ?
Mais je l'ai toujours été, plus ou moins, mais...
Encore plus ?
Encore plus, peut-être. Oui. Peut-être que je sais pourquoi, peut-être que j'ai moins peur, peut-être que je sais pas, mais... Non, non, je me sens très bien, là. Sauf quand je me réveille, évidemment.
Vous avez mal quelque part, oui. Vous avez moins peur de quoi, par exemple ?
De l'avenir.
Forcément. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez peur de la mort ?
Non.
Pas du tout ?
Non. J'ai peur de la souffrance, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de la déchéance. Mais j'ai pas peur de la mort. Enfin, on dit ça.
Oui,
maintenant,
bien sûr.
Si elle s'approche, j'imagine que on va. Et comme je ne suis pas croyant, je n'imagine pas d'enfer. Je dis bon, c'est la fin de c'est la fin de la vie, quoi. C'est Françoise Dolto qui avait dit à sa fille, c'est un être humain qui va s'arrêter, quoi. On ne va pas en faire une maladie. Je pense que c'est, il faut admettre ça, qu'on est mortel, et penser que si on n'était pas mortel, mais ce serait terrible.
Parce que ça tout perdrait pas mal de, tout perdrait pas mal de sens. Enfin, pour ceux qui aiment bien glander, par exemple, ce serait un piège sans fin.
Voilà.
Merci beaucoup, Maxime.
Merci à vous.
Un grand merci à Maxime Le Forestier pour son temps et un immense merci à vous pour votre écoute. Bonnes vacances. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galligani, réalisation, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.